La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et au menu de notre club cet après-midi, la question des micro-centrales hydrauliques en France, l'aventure d'un petit renne en Laponie et un tour du monde des volcans. Je vous présente mes invités dans un instant. Héloïse Rambert, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui à la Une de la Science, on parle d'un nouveau médicament antidépresseur qui vient d'être autorisé aux États-Unis.
Oui, c'est un médicament assez inhabituel dans son mode de prise puisqu'il est sous forme de spray nasal et on va voir que malgré son efficacité, ce n'est pas un médicament qui s'adresse à tous les malades.
C'est Fanny Boyon qui réalise ce club de la tête au carré préparé aujourd'hui par Chantal Le Montagnier, Irène Menahem et Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités cet après-midi, Lorraine Lavocat, Guillaume Medachevski, Arnaud Guérin et Olivier Guilgue. Bonjour à tous, bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
Lorraine Lavocat, vous êtes journaliste environnement pour le site reporter.net et vous publiez aujourd'hui un dossier sur un sujet assez peu connu, je veux dire, du grand public, celui des micro-centrales hydrauliques. De quoi s'agit-il exactement ?
Micro-centrales hydroélectriques.
Hydroélectriques, oui.
Pour être très précis, donc l'hydroélectricité, on voit tous à peu près ce que c'est, hein, faire de l'électricité avec de l'eau. Bah, on voit tout de suite les grands barrages, et là on s'est intéressé aux tout petits barrages.
Ouais, avec des voix qui s'élèvent concernant leur impact justement sur les écosystèmes aquatiques des cours d'eau. Vous avez donc enquêté et on en parle dans un instant. Guillaume Medachevski, vous êtes réalisateur. Mercredi sortira en France votre premier long métrage, Ailo, une odyssée en Laponie, qui raconte donc la vie d'un jeune renne sauvage. Votre film a battu tous les records en Finlande, où il est déjà sorti. La France va le découvrir donc mercredi sur les écrans avant un grand tour du monde. Vous avez justement déjà fait un tour de France pour le montrer en avant-première. Ça se passe bien apparemment, hein ?
Ça se passe très bien. On a fait beaucoup d'avant-premières scolaires et les enfants sont vraiment captés par cette histoire. Donc, ouais. J'espère que ça va continuer.
C'est un conte, hein.
C'est vraiment un conte. On a vraiment suivi des personnages. Je me suis vraiment intéressé à l'individu et pas à l'espèce. Ouais. Elle-même. Donc voilà, vivement
votre,
13.
Votre star, voilà, le 13, c'est mercredi, et votre star, c'est Ailo, ce jeune renne. Olivier Guilde, vous êtes président du GREA. C'est le groupe de recherche en écologie arctique, et les aventures de Ailo, ce jeune renne, se font dans un contexte aussi de changement climatique. Est-ce que la vie des animaux est très bouleversée, justement, par le réchauffement?
Bien sûr, comme la nôtre. Alors, Ailo profitera ou sera défavorisé par ces changements. En fait, c'est toute la question. Qui va en bénéficier, qui va en pâtir?
Ouais. On en discute avec vous dans un instant, puisque évidemment, vous avez vu ce film. Un homme qui n'a pas peur de la chaleur de la nature, c'est vous, Arnaud Guérin. Vous êtes géologue et co-auteur de la série Des volcans et des hommes, qui sera diffusée sur Arte à partir du 18 mars jusqu'au 12 avril. Et pour cette série documentaire, vous avez eu la chance de faire un beau tour du monde à la rencontre des volcans les plus mythiques. Est-ce que vous les connaissiez tous avant de partir tourner sur le terrain?
Non, je ne les connaissais pas tous. Il y a plus de 1500 volcans actifs sur la planète. Mmh. Donc c'est un beau terrain de jeu. Il y en a encore plein à découvrir, mais en tout cas, j'ai eu la chance là d'aller en explorer 20 à travers le monde pour voir non pas le côté explosif ou le côté scientifique, mais aussi la vie des gens qui vivent au pied des volcans, cette relation qui est une relation qui concerne plus de 800 millions de personnes dans le monde. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment, vraiment des enseignements à tirer, y compris pour les scientifiques.
Parmi lesquels des Auvergnats, parce que l'Auvergne figure à votre tableau de chasse aussi.
Oui, tout à fait.
Il n'y a pas de volcan actif en Auvergne.
Et bien, en fait, il n'y a pas que des traces d'activité, il y a aussi de l'activité sous forme de dégazage dans des endroits comme le lac Pavin ou dans des endroits absolument extraordinaires comme le Creusot aussi, qui est juste à côté. Et donc il y a vraiment des choses à voir.
Eh bien, on en parle dans un instant. L'Auvergne, mais également l'Islande, le Japon, l'Etna, évidemment, l'Italie, la Sicile. On va en discuter également avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse, à la Une de la Science, donc aujourd'hui, on parle d'un antidépresseur que les autorités sanitaires américaines viennent d'approuver.
Oui Mathieu, ce médicament c'est l'esquétamine, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Mm-hmm. Et il a ceci de particulier qu'il se présente sous la forme d'un spray nasal. La molécule a fait la preuve de son efficacité dans un essai clinique international. On est avec le docteur Pierre de Maricourt pour parler de l'apport de ce médicament dans la prise en charge de la dépression. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef de service à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et vous avez participé aux essais cliniques pour cette nouvelle molécule. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'esquétamine ?
Alors on peut dire que l'esquétamine, c'est un dérivé de la kétamine, qui est une vieille molécule synthétisée dans les années 60, utilisée comme anesthésiant en médecine vétérinaire mais chez l'homme, et dont on connaît aussi un usage récréatif dans certains milieux festifs.
C'est une molécule qui est d'ailleurs classée stupéfiante.
C'est un stupéfiant, oui.
Et ces effets antidépresseurs, ils sont connus depuis longtemps ?
Alors, les effets antidépresseurs de la kétamine sont connus depuis plusieurs années, hein, depuis les années 2000, puisque cette molécule a montré un effet antidépresseur extrêmement puissant chez des patients qui sont non répondeurs au traitement antidépresseur, les patients qui présentent ce qu'on appelle une dépression résistante. Et à côté de cette puissance, ce traitement a mis en évidence une rapidité d'action qu'on ne connaît pas en psychiatrie, puisque cette molécule est efficace en quelques jours, en quelques heures, même au bout à 48 heures, il y a un effet tout à fait significatif, alors que les traitements habituels sont efficaces en 4 à 6 semaines.
Et c'est la première fois que les effets sont testés dans des essais cliniques validés ?
Alors, les anciens essais étaient sur la kétamine. Là, c'est l'esquétamine qui est, on va dire, un dérivé de cette kétamine qui a une affinité extrêmement forte, beaucoup plus forte que la kétamine sur le récepteur qu'elle va viser. Et après les essais de phase 2 préliminaires, il y a eu ces grands essais dits de phase 3, juste avant le souhait d'une commercialisation qui ont été menés en 2016 et en 2017 au travers le monde dans une dizaine de pays.
C'est-à-dire que concrètement, si on est dépressif, on prend le spray, on fait une injection, et en quelques heures, les effets de la dépression peuvent disparaître.
Oui, alors c'est encore une fois, là c'est dans la dépression résistante, donc quand on a essayé des traitements conventionnels qu'on n'a pas essayé, et en effet, on met en évidence qu'en quelques heures, on a un soulagement des symptômes dépressifs avec ce spray intranasal.
Donc ça veut dire qu'il faut reprendre très souvent le médicament pour avoir un effet soulageant à long terme.
Alors je vous ai dit que ce traitement était en effet très puissant, mais on sait que l'effet est transitoire et qu'au bout de quelques jours, cet effet s'estompe. Et dans ces essais menés, le traitement était répété deux fois par semaine pendant plusieurs semaines, puis après guérison, après rémission, le traitement était toujours administré en espaçant les fréquences d'administration.
Mais ça c'est comme un antidépresseur, c'est-à-dire qu'on arrête de prendre l'antidépresseur, les symptômes reviennent aussi, non ?
Alors, en tout cas, ce qu'on sait dans le traitement de la dépression, c'est qu'il y a une première phase pour arriver à la rémission, et que pour tous les antidépresseurs, en effet, il faut une phase de consolidation de plusieurs mois. Et pour cette molécule, on aura cette phase de consolidation nécessaire, mais c'est vraiment cette réponse qu'on n'avait pas avec les antidépresseurs conventionnels qui est exceptionnelle, et cette rapidité d'action.
Et justement, est-ce que ça concerne beaucoup de gens, cette résistance aux antidépresseurs qu'on connaît tous ?
Alors, déjà, la dépression, ça concerne beaucoup de gens, hein. Une personne sur 5 fera dans sa vie un épisode dépressif caractérisé. Et ce qu'on sait dans la littérature, c'est que 30% des patients ne répondent pas au traitement actuel. Donc vous voyez la proportion extrêmement importante de patients qui ne répondent pas dans une maladie extrêmement lourde, aux conséquences sociales, aux conséquences professionnelles très invalidantes.
Et est-ce qu'il y a des effets indésirables à l'esquétamine ?
Alors, ce que a montré ces études, hein, il y a plusieurs centaines de patients, quasiment 1000 patients qui ont été inclus dans ces essais, on retrouve de façon fréquente des effets indésirables, mais qui vont être transitoires et de gravité tout à fait légère à modérée.
Par exemple ?
Ces deux effets, c'est des effets cardiovasculaires avec une augmentation modérée et transitoire de la pression artérielle juste après la prise, mais qui va s'estomper et s'amender dans l'heure qui suit, et des effets de plus de dissociation, c'est-à-dire des sentiments de déréalisation, de dépersonnalisation qui sont liés, qu'on connaît très bien, aux effets psychotomimétiques de cette molécule, qui peuvent aussi arriver dans les minutes qui suivent et qui vont s'estomper et disparaître dans l'heure qui suit.
Alors ça veut dire qu'il faudra surveiller les patients de près quand ils prendraient l'esquétamine ?
En tout cas, dans les protocoles qui ont été réalisés, les patients étaient en effet surveillés de près, donc ils n'étaient pas forcément hospitalisés au long cours, hein, mais ils venaient une heure et demie à l'hôpital, on leur administrait le traitement, ils étaient surveillés par une infirmière sous le contrôle d'un médecin pendant cette heure et demie, puis après rentrer à la maison.
Et alors pourquoi la voie nasale ? C'est assez inhabituel en psychiatrie, c'est plutôt pour le rhume.
C'est tout à fait inhabituel. habituelle, en effet, c'est la voie orale qui est le plus souvent utilisée pour les médicaments psychotrophes, quelquefois la voie intraveineuse. L'intérêt de la voie nasale, c'est que le problème avec cette molécule, c'est qu'elle a une biodisponibilité très faible, c'est-à-dire qu'elle va être très vite dégradée si on la prend par voie orale. Donc l'alternative, c'est soit la voie intraveineuse, mais qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre, avec un risque de surdosage, etc., alors que la voie intranasale, par la capillarisation de la paroi nasale, permet un passage directement dans le sang.
Et alors, la FDA, donc l'agence américaine. Merci, a très rapidement autorisé le médicament. Vous-même, vous étiez un peu surpris de la rapidité de l'accord ?
Oui, alors, il y a une tradition différente entre les différentes agences. C'est sûr que le dossier a été déposé en septembre 2018 et vient de donner son accord, ce qui est extrêmement rapide. C'est sûr que pour l'Europe, puisqu'un dossier a été déposé un peu plus tard en 2018 en Europe, la réponse est attendue pour un peu plus tardive, peut-être la fin de l'année.
Mais là, c'est encadré, hein, c'est-à-dire que c'est pris à l'hôpital, c'est ça hein ?
Alors là, c'était dans le cadre de protocole et on va voir ce que les agences recommandent dans la mise en place du traitement.
Merci beaucoup, en tout cas, docteur Pierre Maricourt. Il y a quand même pas mal de promesses autour de ce spray, parce que les effets sont très très étonnants, évidemment. Et Louise Rambert, je tiens à vous remercier.
Mais moi aussi,
car
Mathieu,
vous avez passé deux mois avec nous à l'Une de la Science.
Deux mois délicieux, merci
voilà,
pour tout.
Et vous reviendrez. lundi, on retrouvera Axel Villard qui reprendra les commandes. Merci beaucoup en tout cas.
Merci
à vous.
Mathieu.
À très bientôt. Morning in America. C'était Duran Jones et The Indications.
La tête au carré. Le club.
Et dans notre club cet après-midi, on va découvrir les micro-centrales hydroélectriques, l'aventure d'un petit renne en Laponie et les pérégrinations d'un géologue sur les volcans de la planète. Et bien sûr, vous nous rejoignez en direct avec vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Lorraine Lavocat, on commence avec vous. Vous êtes journaliste environnement à reporter.net. C'est le quotidien de l'écologie que l'on peut consulter uniquement, comme son nom l'indique, sur Internet. Et pour Reporter, vous avez réalisé une enquête sur les micro-centrales hydroélectriques, aussi appelées mini-centrales ou pico-centrales, c'est ça?
Oui, tout dépend de combien de mégawatts elles comportent.
Ouais, donc elles permettent de produire de l'énergie à petite échelle grâce à la force de l'eau. Qu'est-ce qui les distingue donc des grands barrages qu'on connaît mieux?
Grosso modo, on parle de petite hydroélectricité en dessous de 12 mégawatts installés.
Ouais, donc c'est juste ça en fait hein, qui fait la oui, différence.
Principalement. Hein. Après, il peut y avoir aussi la hauteur du mur du barrage, voilà, peut entrer en ligne de compte. Mais voilà, ce 12 mégawatts est là. Ouais. La valeur.
Et ces micro-barrages ne retiennent pas l'eau, par contre?
Alors, non. Enfin, disons qu'aucun barrage ne va prélever de l'eau sur la rivière. Le principe, on le connaît à peu près tous, puisqu'on l'a tous fait à un moment quand on était enfant. On met des cailloux à travers la rivière, et du coup, ça crée une retenue. Et donc, ça multiplie, entre guillemets, la force de l'eau qui va après se relâcher. Puis, on met une turbine à cet endroit-là, et ça produit de l'électricité. Donc, ça ne prélève pas de l'eau. Après, du coup, on parle de tronçons court-circuités, c'est-à-dire que sur une partie de la rivière, le régime de l'eau, le débit de l'eau, va être modifié. Puisqu'à partir du moment où on met un mur sur une rivière, ça modifie le milieu aquatique sur l'endroit où il est construit.
Alors, pourquoi vous avez choisi d'enquêter sur ces micro mini centrales exactement? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille?
Alors, au départ, la micro-hydroélectricité, on connaît pas forcément. Et puis, a priori, on se dit, c'est une énergie renouvelable, c'est petit, c'est local, c'est bien.
C'est bon pour la planète.
Hein. C'est bon pour la planète, exactement. Et depuis un an, on reçoit à Reporter de plus en plus de courriels, de communiqués d'associations locales de riverains qui s'inquiètent de la construction de micro-barrages. Et on a eu cette intuition de se dire, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y en a peut-être de plus en plus, qu'en tout cas, ça pose des problèmes. Et donc, on s'est lancé un peu dans cette enquête de terrain.
Arnaud Guérin, vous les connaissiez, vous, ces mini-centrales?
Je travaille dans l'environnement, souvent, chez moi, en Normandie. Et c'est vrai que, traditionnellement, il y a eu beaucoup, beaucoup de barrages. C'était les moulins qui existaient un peu partout. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent sur la biodiversité, en particulier sur les grands poissons migrateurs, comme le saumon, ça pose énormément de problèmes puisque ça crée des discontinuités et ça empêche ces saumons de pouvoir remonter dans les rivières pour aller frayer.
Tout à fait, c'est vrai que vous avez raison de souligner ce lien entre guillemets avec les moulins parce qu'il y a quand même 19 000 moulins en France. Alors il y en a, la plupart sont abandonnés. Hein.
Oui, c'est
en
ce que j'ai vous dire.
Cette tradition en tout cas d'utiliser la force motrice de l'eau, elle est pluriséculaire voire millénaire en France. Ouais. La différence c'est qu'une micro-centrale hydroélectrique a quand même beaucoup plus d'impact qu'un moulin. Elle fonctionne beaucoup plus longtemps, elle a besoin de débits plus importants de l'eau, donc elle n'a quand même pas le même impact qu'un moulin.
Alors donc effectivement, il y a ces inquiétudes environnementales, et puis d'un autre côté, il y a aussi l'intérêt quand même de développer des alternatives pour la transition énergétique. Donc c'est pour ça que vous avez voulu enquêter. Hein.
Tout à fait, exactement, parce que effectivement, l'hydroélectricité, aujourd'hui c'est la première source d'énergie renouvelable en France, hein. Ça représente 10% de notre mix énergétique, mais c'est la première source, parce qu'il y a quand même le nucléaire qui fait une grosse partie, et surtout c'est par rapport à l'éolien ou le photovoltaïque, une énergie qui est facilement stockable et qui est relativement flexible. En fonction de l'ouverture des vannes, on peut quand même gérer assez bien la production électrique. Donc, elle présente des avantages certains et sans doute qu'on ne pourra pas s'en passer pour faire la transition énergétique.
Alors, on va écouter un reportage qui concerne la micro-centrale de Vigeois, c'est dans le Limousin. Reportage réalisé en 2017 par France 3.
Daniel Farge est un propriétaire heureux. Cette micro-centrale, il en rêve depuis 10 ans. Mais voilà, depuis 10 jours, la micro-centrale fournit enfin ses premiers kilowatts grâce à une turbine ichtyophile, c'est-à-dire qui laisse passer les poissons en aval comme en amont.
L'avantage de cette turbine, elle permet donc aux poissons de pouvoir circuler. En plus, elle produit une énergie renouvelable non polluante. Avec de l'eau qui est presque permanente dans cette région puisque la Vézère a un très bon débit très régulier et en plus elle est régulée par les trois barrages EDF à Mont.
Un projet privé de 2 millions d'euros soutenu par la commune de Vigeois, déjà très engagée dans les énergies renouvelables.
On a l'énergie et on va toucher 6% du chiffre d'affaires et au bout de 60 ans, ça reviendra à la commune. Je trouve que c'est bien.
C'est à l'emplacement même d'un ancien moulin détruit par un incendie en 1936 que la micro-centrale a été construite.
une façon de réhabiliter le site et de couvrir la consommation électrique de 450 foyers, soit plus d'un tiers des habitants de Vigeois.
Voilà, bah ils ont l'air ravis, les habitants de Vigeois, Lorraine Lavocat, de leur mini-centrale.
Tout à fait, il y a énormément d'endroits où ça peut bien se passer. Hein. Voilà, ouais. C'est pas ce qu'a montré le travail, enfin, ce que moi j'ai pu constater, c'est qu'il y a des cas où ça se passe bien, et malheureusement, il y a aussi des cas où ça se passe moins bien.
Mais alors, ce monsieur disait, bah, finalement, c'est très bien, parce que ça laisse passer les poissons, exactement l'inverse de ce que disait tout à l'heure Arnaud Guérin.
Alors, c'est vrai qu'il y a des progrès qui ont été faits énorme dans les dispositifs notamment de transit des poissons. Il y a principalement le problème de transit des poissons migrateurs et de transit des sédiments. Donc il y a maintenant beaucoup de dispositifs, donc ces fameuses turbines qui vont pas hacher les poissons. Il y a aussi tout ce qu'on appelle des passes à poissons, qui sont grosso modo des toboggans. Alors il y a des formules en mode ascenseur, des formules en mode
carrément.
Escalier.
Ah oui.
Oui, tout à fait, ça dépend de la grandeur du barrage pour faire passer les poissons. Donc on a ces dispositifs qui sont relativement efficaces. Le problème n'est pas tant sur un barrage, le problème c'est que on en a beaucoup. En fait, un dispositif pour faire passer les poissons, au mieux, il va faire passer grosso modo 9 poissons sur 10. C'est très bien. Le problème, c'est qu'on a des rivières sur lesquelles on a des centaines de barrages. Donc en fait, s'il laisse passer 9 poissons sur 10, grosso modo, au bout du 10e barrage, bah, il n'y a plus de poissons qui sont passés, quoi. Donc c'est plus l'accumulation des barrages qui pose souci que si on prend un micro-barrage en particulier.
Ouais. Et il y en a beaucoup alors justement de ces micro-barrages en France, hein ?
2000.
2000, ouais. Et c'est en pleine expansion ?
Alors, en pleine expansion, non. Hein. Mais il y a eu des évolutions législatives et des lancements d'appels d'offres, notamment depuis Ségolène Royal, qui font qu'il y a une recrudescence du nombre de micro-barrages.
C'est en 2014. Hein, pour.
En 2014.
A priori pour Ségolène Royal. Olivier Guilgue.
Oui, je voulais justement dire, en disant, c'est très bien les passes à poissons, les hélices qui permettent le passage des poissons. Il y a quand même un problème que les géologues ont identifié aussi, c'est l'érosion régressive ou l'érosion tout court qui est modifiée. Donc les alluvions sont modifiées, donc éventuellement les saumons vont pouvoir remonter ou les aloses, mais elles pourront pas se reproduire. Donc c'est aussi un problème auquel il faut faire face.
Tout à fait, c'est par rapport au fait que les sédiments ne passent pas forcément. Enfin, encore une fois, si on prend cette idée d'un mur, alors on n'a pas des tonnes et des tonnes de sédiments qui vont rester comme une montagne devant le barrage, mais effectivement, ça pose des soucis. Et après, le lit des rivières est moins bon et moins propice à la reproduction.
Notre géologue est d'accord ?
Ah oui, complètement. Ce qui pose réellement problème, c'est de faire des freins pour les sédiments et les particules fines, en particulier avec l'aménagement du territoire. Si les agriculteurs ont arraché les haies, etc., et qu'ils laissent le sol découvert en hiver, on va avoir des phénomènes d'érosion, ça va arriver dans la rivière. Et si on stocke le sédiment dans la rivière, bien sûr, les poissons ne pourront plus se reproduire. Donc, il y a une continuité biologique à avoir sur le long de la rivière. Je crois que la réglementation aujourd'hui a évolué là-dessus. Il y a même la destruction de barrages dans certaines régions pour pouvoir remettre une continuité écologique dans les rivières.
Lorraine Lavocat, qu'est-ce que ça représente en part de production d'électricité en France, alors ces petits barrages ?
Alors, donc je disais 10% du mix énergétique pour l'hydroélectricité et 90% de ces 10% sont produits par les 200 ou 300 grands barrages qu'on a en France. Donc, on a 10% des 10% qui sont produits par ces 2000 micro-centrales.
Alors, à l'issue de votre enquête, justement, sur place, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, finalement, c'est bien ou c'est pas bien, ces histoires ? Et est-ce que l'impact est réel ? Est-ce qu'il y a vraiment lieu de s'en inquiéter ?
Alors, il y a un impact réel, comme on vient de le dire, à la fois sur les poissons, à la fois sur les sédiments. Il y a aujourd'hui une réglementation aussi, comme on le disait, qui valorise la continuité écologique, donc qui promeut le fait qu'on laisse couler au maximum les rivières. Donc, il y a des choses à appliquer. Grosso modo, c'est par rapport à l'accumulation, ce que je disais au départ, ce qu'il faut faire attention, c'est que effectivement, il y a un phénomène d'accumulation qui a un impact quand on a trop de micros au barrage. Au bout d'un moment, ça pose souci. Et il y a le problème aussi qu'il y a des rivières qui sont aujourd'hui encore très préservées, relativement sauvages, et que c'est là potentiellement qu'on pourrait aller mettre des centrales parce que c'est là où il y en a pas encore. Et c'est là entre guillemets où il faudrait pas en mettre parce que justement, en tant qu'affaire, préservons les dernières rivières sauvages qu'on a encore dans notre pays.
Arnaud Guérin.
Je suis tout à fait d'accord. En tout cas, chez nous, si je reprends l'exemple de la région où je vis, en Normandie, on est en train de détruire en baie du Mont-Saint-Michel des barrages importants, des barrages EDF, pour laisser le saumon atlantique migrer dans les premières rivières salmonicoles de France qui débouchent dans cette baie extraordinaire qu'est la baie du Mont-Saint-Michel.
Ouais. Donc la conclusion, c'est quoi ? C'est que d'abord, il faut une remise à niveau de ce qui existe déjà ?
Tout à fait, exactement. Alors déjà, remettons à niveau, équipons les barrages, parce qu'il y a des turbines ichthyophiles, effectivement, mais pas partout. Donc déjà, équipons pompons les barrages qui existent, mettons le nec plus ultra de la turbine et des passes à poissons, et évitons effectivement de créer de nouvelles centrales. Le potentiel, de toute façon, pour la transition énergétique, il n'est pas là principalement.
Ouais. Et alors, le réchauffement climatique pourrait aussi lui avoir un impact sur ces dispositions.
On sait qu'effectivement, un des enjeux qui fait qu'on produit plus ou moins de l'énergie, c'est quand même le débit de l'eau. Hein, ouais. Et on sait, les prévisions montrent qu'effectivement, on va avoir une baisse des débits dans la plupart des bassins, enfin même dans la totalité des bassins, et donc effectivement avec des conclusions, avec des conséquences qu'on n'a pas forcément chiffrées, mais on peut effectivement estimer qu'il y aura des conséquences sur la production hydroélectrique.
D'autant plus que quand on bloque la circulation de l'eau sur la rivière, on va stocker l'eau, et donc cette eau, quand il y a des températures qui sont très élevées, la température de l'eau va augmenter de manière extrêmement forte, et là ça peut devenir très préjudiciable pour la biodiversité, pour ces espèces qui, même si elles passent, vont arriver dans des eaux qui sont des eaux très peu riches en oxygène, avec une température qui est complètement inadéquate par rapport à leurs conditions de vie.
Voilà, sujet en tout cas nouveau pour beaucoup d'entre nous, hein, très intéressant, de ces micro-centrales hydroélectriques. Vous leur consacrez donc un dossier sur reporter.net, Lorraine Lavocat, et on peut déjà le consulter sur le site.
Tout à fait, c'est aujourd'hui en ligne et le deuxième volet sera demain.
Merci beaucoup Lorraine, vous restez avec nous. Dans un instant, on part en Laponie, découvrir les aventures de Ailo, ce gentil petit renne.
Je les aime en bleu jean. J'aime la vie, j'aime les gens, tant que mon tempérament se désiste des eaux troubles en tétant.
Tempérament, c'était Malik Djoudi.
La tête au carré, le club sur France Inter.
Ailo, une odyssée en Laponie, ce sont donc les aventures d'un jeune renne. Et ce film, qui est un conte familial, sort mercredi sur les écrans.
Au cœur de la Laponie, quand l'hiver s'achève, les rennes sauvages descendent des sommets pour donner naissance à leurs petits. Je vous présente Ailo. On raconte qu'à la naissance, un renne a 5 minutes pour se dresser sur ses pattes, 5 minutes pour apprendre à marcher et 5 autres pour savoir courir et nager. C'est une question de survie. Intrépide, Ailo veut tout voir, tout connaître. Mais il faut faire vite. Loin du troupeau, sa mère et lui sont trop vulnérables. Une incroyable aventure commence. Traverser le Grand Nord. Faire les rencontres les plus surprenantes, affronter des prédateurs redoutables. Voici l'histoire d'Ailo, comment il a grandi et à quel point on l'a aimé. Le courage, la volonté, c'est l'instinct propre à la vie sauvage. Et à chaque fois qu'on décide d'affronter la vie comme elle est, le monde finit par nous sourire. Pas vrai ?
Voilà la voix du chanteur Aldebert qui a également composé la chanson originale du générique de votre film Ailo, Guillaume Medaszewski. Vous en êtes donc le réalisateur et à vos côtés se trouve Olivier Guilgue, le président du GREA, donc le groupe de recherche en écologie arctique. Vous êtes également, Olivier Guilgue, chercheur associé à l'université de Franche-Comté. Et Guillaume Medaszewski, c'est donc votre premier long métrage. Vous avez déjà les poils qui se dressent sur les bras, rien qu'en entendant la bande-annonce de votre film. Et puis, et surtout en attendant la sortie mercredi. Hein.
J'ai le stress, mais c'est bien, j'ai déjà pensé à ma prochaine histoire. En écoutant les saumons, là, je pense qu'il y a une belle aventure à faire.
Ah oui, c'est vrai, quelle histoire?
La migration de, je sais pas, de sushi, je vais l'appeler. Sushi, le petit saumon, le long d'une rivière. Ça peut être une belle histoire. Il y a pas mal de rebondissements à voir.
Avec une fin un peu triste, certainement, mais bon.
Moi, je trouverais une nouvelle fin, mais
On va parler plutôt d'Ailo, c'est beaucoup plus réjouissant. Ouais. Ce petit renne qui a fait l'objet pour vous de nombreuses séquences, justement, en Laponie. Combien de temps a duré le tournage, exactement, pour le film?
On a tourné plus de 150 jours, 600 heures d'images tournées pour arriver à 80 minutes. Ouais. Donc c'est beaucoup de temps. Je dis souvent que c'est comme un enfant quand on filme un animal. Il faut être très patient.
Ouais. Alors vous venez du documentaire télévisé, donc vous connaissez déjà d'ailleurs la patience qu'il faut déployer lorsqu'on filme des animaux sauvages dans leur milieu, ce qui est extrêmement compliqué. On peut passer des semaines sans avoir un seul plan à ramener. Hein. C'est l'angoisse permanente.
Mais souvent cette angoisse elle est récompensée ou pas. Mais en tout cas pour Ailo, on a passé des moments et surtout par des conditions pas possibles, c'est-à-dire moins 40 degrés. Mm-hmm. Je vous assure la patience, au bout d'un moment, il y a une limite quoi. Moins 40 degrés à attendre un animal pendant 10-15 jours qui ne vient pas. Ouais. Eh ben, il faut vraiment vouloir. Ouais.
C'est vrai. Alors c'est un conte familial, on le disait tout à l'heure, que vous avez imaginé peut-être d'abord pour vos propres enfants, non?
C'est une commande, une commande de mes enfants pour Noël. Je voulais leur raconter la vraie vie des rennes du Père Noël. C'était important parce que j'ai réalisé que mes enfants connaissaient mieux les animaux qui vivaient en Afrique, les lions, les zèbres, les éléphants. Ouais. Et en fait, les rennes qui vivent pas si loin que nous, pas si loin de là que nous, et ils sont, voilà, ces animaux qui ont une aventure, qui ont une histoire extraordinaire, et je tenais vraiment à ce que mes enfants connaissent leur vie. Voilà.
Mm-hmm. C'était surtout pour vous faire pardonner d'être souvent parti au bout du monde pour tourner,
c'est
non?
C'est pas faux. Parce que, hein, ouais, c'est pas faux. Donc vous êtes entre nous, ça, je peux pas le dire, mais ma femme qui écoute, je pense que voilà. c'est aussi mon cadeau de Noël à ma femme. Voilà. Voilà. Un petit peu en retard parce que c'est en mars, mais.
Vous avez une formation de biologiste, Guillaume Medaszewski, et donc ce milieu vous le connaissiez bien. Mais est-ce que entre le moment où on écrit son projet dans le confort de son petit bureau normand et le moment où on arrive sur le terrain justement pour filmer, est-ce qu'il faut changer beaucoup de choses? D'où la difficulté évidemment de travailler avec des animaux toujours.
Constamment. C'est-à-dire que j'ai vraiment écrit un vrai scénario au départ. C'était mon histoire idéale. Mmh. Voilà. De par mes connaissances du biologiste, je me suis dit voilà ce que j'aimerais. J'aimerais qu'il arrive ça. Sauf que ça n'arrive jamais. Mmh. Et à moi de m'adapter en fait. C'est-à-dire que à chaque fin de semaine de tournage, je regardais mes images et j'utilisais le moindre petit détail que l'animal me donne, un regard, une oreille qui se dresse, une patte qui se lève. Tout ça, pour moi, ça me servait pour créer de l'émotion. Et donc, à chaque début de nouvelle semaine de tournage, on repartait sur une nouvelle histoire. Mmh. Et c'est en ça que c'est vraiment un récit initiatique.
Alors, ce qu'il faut raconter, c'est que Ailo, donc ce renne, on le voit avant même qu'il naisse. Et ça, c'est assez fort parce que vous avez suivi d'abord sa mère, effectivement, qui l'attendait. Et on voit la naissance d'Ailo et on va le suivre donc pendant un an. Et ça, c'est assez rare, finalement, de pouvoir réaliser toute cette séquence de vie de l'animal.
Le défi, c'était vraiment de suivre le même petit renne. À la limite, c'est pas... on aurait pu avoir plein de rennes. Et ça aurait pu être une... Moi, ce que je voulais, c'est que ce soit vraiment le même petit, parce que surtout, il a un caractère qui lui est vraiment propre à Ailo. C'est-à-dire que tous, c'est pas parce que c'est mon film, tous ne sont pas pareils. C'est-à-dire que lui, il avait une curiosité, il avait une envie de découvrir le monde, qui est vraiment assez... moi, qui m'a bluffé, et surtout, il nous a fait confiance, en fait.
Mais pourquoi? Ça veut dire qu'il s'est habitué à vous? Parce que quand on filme des animaux sauvages comme ça, on est dans leur environnement proche. Donc, il y a quand même quelque chose de très intrusif.
Non, moi, je tiens vraiment à garder, j'appelle ça un cercle de confiance. C'est-à-dire que l'animal est au milieu du cercle et nous, on est autour. À partir du moment où l'animal se comporte, à partir du moment où il est bien, il est serein, je me rapproche. Si je sens le moindre stress, je m'éloigne. Mm-hmm. Ça, c'est hyper important.
Mais il s'est habitué à vous vraiment? Il s'est habitué à votre présence?
En fait, on a mis près de, ça faisait 6 jours que j'essayais de filmer des naissances. C'était pas possible, ça. Elle était très loin. Mmh. Et un jour, une femelle est arrivée assez proche de nous. Elle s'est couchée pendant plusieurs heures, comme si elle nous observait. Et puis, à un moment, elle est partie. Elle est partie et elle a mis bas. Donc, elle a donné la vie à Ailo. Et ce petit, en fait, quand il est né, il a vu sa mère et il nous a vu nous juste après, en fait. Et donc, on faisait partie dès sa naissance de son cercle de confiance, en fait. On faisait partie de son monde, en fait.
Donc, il y a eu une habituation tout de suite.
Je pense que la mère qui nous a fait confiance, la mère a transmis cette confiance à ce petit.
C'est quasiment ce que décrit Conrad Lorenz, finalement.
Voilà, même de l'imprégnation, sans doute. Ça, non, c'est tout à fait remarquable d'avoir été là à ce moment et d'être tombé sur le bon renne. Alors après, les animaux aussi ont un avantage parfois à la proximité de l'homme. Nous aussi, on peut avoir des oiseaux parfois qui se font chasser par des faucons, des grands corbeaux et qui viennent se réfugier autour de nos tentes pendant quelques minutes en attendant que le danger s'éloigne ou par des renards.
Je l'ai pas chassé.
Non, mais je veux dire, les animaux repèrent assez vite que la présence de l'homme, voire du caméraman, va empêcher les renards, les aigles, les loups de s'approcher.
Ouais, complètement. Et nous, on tient vraiment à garder ce calme dans nos mouvements, dans nos déplacements. On est hyper serein, on bouge doucement, on parle calmement. Et ça, l'animal, je pense qu'il le ressent. C'est-à-dire, quand je filme souvent des animaux dans la nature, je leur parle, en fait, même s'ils ne m'entendent pas. Mais en tout cas, il y a une sorte de mélodie et ils s'habituent à ma voix.
Donc une communication comme ça qui s'établit.
Bien sûr, bien sûr. C'était totalement... je sais pas. En tout cas, moi, je tiens à créer ce lien. Alors, c'est par la voix. Ils voient que je suis calme, serein et que je m'énerve pas. Et ça, je pense que au bout d'un moment, alors ça peut durer des jours, mais via cette femelle-là, voilà, quand elle a mis bas, en fait, je continue à parler moi, en fait. Je continue à parler à mes équipes très calmement. Donc, une sorte de, elle s'habitue à notre voix. Alors, voilà, peut-être que je délire totalement, mais je crois en ça. Je crois en ce...
Je te rassure, les scientifiques font la même chose, même s'ils ne le mettent pas dans leur protocole.
Ouais. Alors justement, aussi... Olivier Guilde, puisque vous avez vu le film, évidemment, de Guillaume Medachevski, scientifiquement, il n'y a rien à lui reprocher. Tout est parfaitement exact.
Après, il y a certaines choses qu'on peut interpréter de différentes façons, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu d'anachronisme, j'ai pas vu d'erreur. Non, c'est vrai que c'est un conte qui est très bien filmé, des images magnifiques. Comme
mais le danger de vouloir justement interpréter des émotions, par exemple, là, c'est toujours finalement l'écueil dans lequel on peut tomber, non?
Oui, bien sûr, mais enfin, ça reste un film pour enfants. Après, est-ce que c'est le renne qui parle, la voix off, le réalisateur? Je veux dire, ça a peu d'importance. L'essentiel, c'est que sur le fond, il y a pas de grosses bêtises, j'en ai trouvé aucune. Mm-hmm. Et après, moi, la façon dont c'est mis en scène, franchement, j'ai aucun problème avec ça.
Ouais. Merci, ça me rassure en fait. Mais si surtout, je tiens vraiment à dire que l'humain n'a pas le monopole des émotions, quoi. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que je ne fais pas dire à les animaux un comportement, c'est eux qui vivent ça. Moi, je ne fais que. C'est un ressenti que j'ai eu sur le moment. Démontrez-moi que l'animal n'a pas de joie. Prouvez-moi que l'animal. N'a pas de tristesse, mais constamment.
Ça, les éthologues le disent de plus en plus. Hein, la gamme des émotions animales, elle est réelle quand même.
Oui, oui, bien sûr. Et puis dans les images, il y a beaucoup d'émotions. Comme tu l'as dit, tu as sélectionné dans les 600 heures, les quelques minutes où justement, il y avait de l'émotion, parce que sinon, ça n'a aucun sens, c'est tout plat. Ouais. Maintenant, est-ce que le renne est effrayé par les loups? Est-ce qu'il est attiré par les loups? Je veux dire, ça, c'est des émotions que tu peux sélectionner au montage, choisir les images qui bien vont sûr, faire ouais. que. Mais franchement, c'est pas ça. Le plus important, c'est de sensibiliser les gens avec des magnifiques images à un milieu qui est un peu en déperdition actuellement.
Ouais. Alors finalement aussi, je trouve que l'une des vertus du film de Guillaume Medachevski, c'est de découvrir aussi une prédation qu'on connaît beaucoup moins que celle, par exemple, d'Afrique, où là, elle est beaucoup plus évidente. Mais la vie en Arctique, c'est pas un long fleuve tranquille du tout pour les animaux. Hein. Dans la blancheur de la neige, c'est un combat de tous les instants aussi pour le renne, par exemple.
Hein. Tout à fait. Le renne, on voit des magnifiques images de loups, mais aussi des prédateurs beaucoup plus discrets, comme l'hermine, que tu as très bien filmé, et qui est dans l'Arctique, en tout cas, c'est ce que nous, on a montré par nos travaux, le prédateur souvent le plus important, parce que il est là toute l'année, il est là sous la neige, il poursuit les rongeurs. On le voit très rarement, on peut passer des années sans le voir, même dans le Jura où il y en a pas mal. Et pourtant, c'est un des prédateurs principaux dans nos écosystèmes.
Et le glouton?
Alors le glouton, c'est fantastique.
Le glouton, mais quelle horreur cet animal, franchement.
Non, il a une intelligence extraordinaire.
Alors on dirait un petit ourson, mais en fait, il est plus près de la famille des loutres. Hein, c'est ça.
Mustélidés.
Mustélidés, oui.
Voilà. Pour moi, le glouton, après le cochon, c'est le plus intelligent des animaux que j'ai rencontrés.
Oui, sauf que vous l'appelez quand même, on l'appelle Wolverine, c'est ça.
C'est son nom anglais, Wolverine, ouais. Ouais, et tout de suite, ça parle aux gens.
Carcajou, des Canadiens.
Carcajou, c'est des Canadiens. Ouais. Ouais, même
espèce. Il est terrifiant, quand même. Il est capable de décapiter un renne, par exemple.
Ouais, à partir du moment où il grimpe, là, il peut pas naturellement le faire. Il va grimper sur une branche et il va attendre. Nous, on attend la belle image. Lui, il va attendre le renne, en fait.
Ouais, c'est ça.
Oh, il peut le. Vous avez vu ses griffes, c'est juste extraordinaire. C'est Wolverine, le héros.
C'est l'espèce la plus Enfin, que les naturalistes, moi par exemple, c'est une des rares espèces, sinon la seule que j'ai jamais vue dans l'Arctique.
Je rassure les parents, on ne voit pas de scène de décapitation dans le film. Non. Vous inquiétez pas, vous pouvez emmener vos enfants.
C'est le prédateur aussi un des plus intelligents, notamment par rapport à l'homme, en Sibérie, où les populations locales, c'est pas des Inuits, mais tous les natifs le piège. C'est une des espèces. Non seulement ils arrivent très difficilement à le piéger, mais en plus il vient détruire le piège, il vient manger l'appât et il se fait jamais avoir.
Arnaud Guérin.
Ouais, justement, vous avez fait comment parce que moi qui suis aussi photographe, ça fait partie de ces espèces de légendes qu'on espère voir un jour. Vous avez fait comment pour le filmer?
On a travaillé beaucoup avec les photographes animaliers finlandais. Il y a un très très beau réseau, un très très grand réseau là-bas. Après, c'est que c'est comme tout, c'est-à-dire que le glouton, il faut se laisser voir en fait. Lui, contrairement à l'ours où il y a un vrai danger pour l'humain, il n'y a pas de danger pour nous envers nous. Donc il faut se montrer. Le Wolverine, le glouton, on sait très bien qu'il a un très très bon odorat. Il a une très très bonne vision. Ça sert à rien de se cacher sous un affût et d'enlever son odeur d'humain via une cheminée, j'en sais rien. Non, il vous verra. Donc dans ces cas-là, c'est l'inverse du l'ours, on se cache, le glouton, on se montre. On se montre et on attend. Ça peut durer des semaines, des semaines et des semaines. Mais à un moment, il va... C'est un peu comme un animal sauvage, comme le petit Ailo. Il va nous voir, il va s'habituer à nous, il va partir plusieurs jours, nous on va rester là. Et puis à un moment il va revenir, il va voir qu'on est toujours là, puis qu'on attend.
Bon, bah, faut avoir du temps, quoi, c'est ça. Faut avoir le budget pour attendre, finalement.
Ouais.
Olivier Guilgue, pour terminer, parce que effectivement, en filigrane du film aussi, il y a la question du réchauffement climatique qui est là, et qui est réel. Qu'est-ce que ça pose comme type de problème, justement, à la faune de l'Arctique aujourd'hui?
Alors, un grand nombre de problèmes, c'est ce qu'on étudie nous depuis 30 ans maintenant, même un peu plus, dans l'Arctique. On a, si on peut les classer comme ça, trois grands types de problèmes, je dirais. Il y a d'une part l'avancée des espèces, des distributions d'espèces vers le nord, donc toutes les espèces ont tendance à monter de plus en plus au nord, donc on a des espèces méridionales qui envahissent l'Arctique, le Groenland par exemple, où je travaille, et les espèces typiquement arctiques, elles ont du mal à aller plus loin, parce que plus loin il y a le pôle nord, il n'y a plus rien, il y a de la banquise, donc on a une disparition nette en termes de biodiversité, alors qu'en termes de richesse spécifique, le nombre d'espèces, on en a de plus en plus, mais c'est un paradoxe, alors que les espèces vraiment arctiques, on est en train de les perdre. Après, il y a aussi des problèmes de phénologie très graves, avec ce qu'on appelle en anglais, il y a pas de terme en français, le mismatch, et on a ça en France aussi, c'est-à-dire que des espèces qui reviennent de migration des oiseaux qui viennent d'Afrique un peu trop tard, les insectes, eux, ont déjà éclos, parce qu'ils sont en phase beaucoup plus directe avec le climat, ils répondent directement, rapidement au climat, alors que les oiseaux, eux, ils sont en Afrique, ils savent pas le temps qu'il fait en France et au Groenland, ils ont du mal à revenir, et quand ils reviennent, il n'y a plus rien à manger, donc ils se reproduisent plus. Et
les rennes, par exemple, ils ont un problème de sabot, tout simplement, avec le réchauffement
climatique. Alors on a beaucoup d'épisodes de neige mouillée au printemps ou de pluie sur la neige. On a eu ça en Sibérie, où on travaille depuis quelques années, où des dizaines de milliers de rennes, alors pour le coup domestiques, mais sont morts sur la péninsule de Yamal, parce qu'il y a eu juste quelques heures de pluie sur la neige. La pluie a percolé dans la neige et a créé une couche de glace en surface. Donc tous les rennes, beaucoup de rennes sont morts. Il y a eu l'année suivante des problèmes d'anthrax avec des morts humains. Il y a eu l'arrivée de nouveaux prédateurs qui ont profité de ces carcasses. Et donc ça peut aller très vite et très loin en termes de conséquences.
En tout cas, Ailo, c'est cette odyssée en Laponie. Il y a le roman du film aussi qui sort aux éditions Les Dragons d'Or. Et puis, vous avez très rapidement, Guillaume Medaschewski, battu un record quasiment du jamais vu en Finlande pour ce film, pour un film français.
C'est le film français qui a le mieux marché de tous les temps après Amélie Poulain en Finlande.
Il a même battu la marche de l'empereur.
Je suis pas peu fier.
Ben, vous avez raison. Il sortira mercredi. On vous souhaite le même succès.
Merci.
Dans les salles en France. Dans un instant, direction les volcans. On va se réchauffer avec Arnaud Guérin.
C'est la petite misère que tu me prends la tête. tous les gens vont au lit, des rêves flingués dans la tête, c'est la petite misère, un peu plus bactère, prisonnier de nos clés, de nos corps déréglés, c'est la petite misère, quand tu t'en vas bien trop loin, c'est la petite misère, et c'est bien toi que j'aime, ne te moque pas, oh non, ne prends pas tes grands airs, c'est la porte à côté, celle du cimetière. Je le sais, nous sommes faits d'atomes et d'électricité. Et le cœur marche et puis il s'arrête. Nous sommes faits d'atomes. Le sol nous arrête.
Je le sais.
C'est la petite misère.
Bien sûr.
C'est vraiment pas de
je le sais.
Avec ta dégaine sur la ligne aérienne.
Je le
que
sais.
Ce qu'on
bien sûr.
C'est la petite misère.
Bien sûr.
Je peux conduire comme James Dean, les yeux fermés sous la pluie. Dans le désert de Paris, dans le désert de Paris.
La petite misère, celle de Raphaël à l'instant.
Le club sur France Inter.
Depuis plus de 15 ans, je parcours les volcans actifs de la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d'eux. Partager leur quotidien, c'est comprendre un peu mieux l'histoire vivante de la Terre et de ses habitants.
Voilà Arnaud Guérin, c'est votre voix. Vous êtes géologue et co-auteur de cette série des volcans et des hommes qui sera diffusée sur Arte à partir du 18 mars jusqu'au 12 avril, du lundi au vendredi à 17h35. C'est la première fois que vous incarnez une série pour la télé ?
Oui, c'est une première, oui, tout à fait.
Et là, vous avez eu carte blanche pour aller dans le monde entier, c'est quand même génial.
Alors ça, c'est une grande chance qui m'a été donnée grâce à vous, Mathieu, parce que en fait, le producteur de la série m'a entendu chez vous, et donc le lendemain, j'avais un mail auquel j'ai répondu en me disant est-ce que ça vous intéresserait que de bosser sur une série sur les volcans. On s'est rencontrés à Paris et trois mois après, on allait proposer ça aux gens d'Arte et ils ont tout de suite accepté. On avait anglé le sujet sur justement cette relation entre les hommes et les volcans parce qu'il nous semblait intéressant d'explorer ce qui n'avait jamais été exploré dans les documentaires sur les volcans. Et
puis histoire de donner de la chair humaine aussi au récit.
Et six mois après, on était parti sur l'Etna pour le premier tournage. C'était en début février 2017. Et ça nous a emmené jusqu'à juin de l'année dernière, c'est-à-dire un an et demi de tournage.
Alors je dois dire que les images sont assez exceptionnelles, très impressionnantes. D'abord parce que vous nous permettez d'accéder finalement dans des lieux aussi mythiques, par exemple, que l'Etna, dont on a une image au fond très très vague, et là on est sur le terrain avec vous, au plus proche de la lave, quasiment sous les crachats, mais même sous les crachats de pierre. Ça c'est extraordinaire de pouvoir approcher au plus près justement ces volcans.
À l'Etna là c'était étonnant parce que l'Etna a commencé une éruption qui a été très violente ensuite, mais là la première phase était relativement peu violente, et puis il y a des projections de bombes volcaniques, et on allait récolter les bombes volcaniques au pied du cône. Mais ce qui nous a intéressé, c'était justement de dézoomer, et puis nous y étions en plein hiver pour aller voir une fête qui s'appelle Santa Agata. C'est près d'un million de personnes en Europe, en Sicile, à Catane, dans les rues pour suivre la procession de la Sainte qui protège la ville de Catane. Et on s'aperçoit qu'au-delà de l'aspect religieux, qui est presque anecdotique, c'est un lien qui est un lien extraordinaire entre la nature et les hommes qui se joue là. Une sorte de catharsis là, de nuit dans les rues avec des gens qui portent des cierges qui font 10 mètres de haut, avec toute une procession. Et d'un seul coup, on touche vraiment pas terre de manière physique parce qu'il y a une telle pression humaine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde remonte la Via Etnea, cette voie de l'Etna. Et juste derrière, on voyait ce volcan qui était en éruption.
Très impressionnant. Et alors, ce qui est fou, c'est que finalement, dans le monde entier, les populations vivent au plus près des volcans.
Globalement, alors en fonction des statistiques, c'est entre 500 et 800 millions de personnes qui vivent directement sous la menace du volcan. Mais si on regarde l'éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010...
Il frime parce que lui, il arrive à le dire tout seul, comme ça, évidemment, il va tout le temps en Islande.
Si on regarde, en fait, on vit tous sous la menace des volcans islandais, par exemple. La prochaine éruption islandaise, qu'on attend grosse certainement, posera des problèmes à nos économies et à nos sociétés. Donc en fait, on s'aperçoit qu'on vit sur une petite planète. planète, ouais. Et que les conséquences de la dynamique de notre planète, on peut en profiter comme les gens le font au pied des volcans, mais aussi en pâtir quand ça se fâche.
Lorraine Lavocat.
Oui, justement, est-ce que c'est une volonté des populations humaines d'aller se mettre au plus près des volcans parce que ça a un intérêt d'un point de vue de la fertilité de la Terre, ou c'est juste qu'il y en a partout, donc bon, on se met là où on est et il y a des volcans?
Alors pour plein de pays, on se pose même pas la question. Si vous vivez en Indonésie, des volcans, il y en a partout. Vous tournez le regard à 360 degrés, vous avez des volcans partout. Donc vous êtes obligé d'y vivre. Simplement, donc il y a des gens qui n'ont pas le choix. Mais globalement, à l'échelle de la planète, beaucoup de gens vont profiter des volcans. Tout simplement parce que la Terre y est plus fertile qu'ailleurs. En général, ce sont des reliefs. Donc ça va arrêter la pluie. Donc on va avoir de l'eau. Terre fertile, eau, c'est plutôt pas mal quand on cultive des choses. Et puis à côté, il y a des choses complètement inattendues. Vous parliez des enjeux énergétiques, la géothermie, les sources chaudes, etc. Ça fait partie. Et puis à côté, il y a des usages qui sont des usages complètement incroyables, comme au Japon.
Ah oui, on vous voit faire des bains de pieds, par exemple, Arnaud Guérin.
Oui, alors au-delà même des bains de pieds, parce que c'est ça le charme aussi de la télévision, on se prête au jeu. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle Tsunamushi. Ouais. Tsunamushi, c'est un bain de sable volcanique. Vous arrivez sur une plage en plein hiver au mois de janvier, franchement c'était une vraie caillante, hein. Il faisait vraiment pas chaud du tout, et puis d'un seul coup il y a un monsieur qui arrive avec une pelle de son espèce de petit bâtiment et qui va vous creuser, alors vous avez l'impression qu'il va creuser votre tombe, et puis en fait le sable fume et vous allez vous allonger, il vous ménage un petit oreiller. Et il va vous recouvrir d'un sable. Le sable est à 80 degrés. Ouais. Vous y restez 10 minutes maximum. Et c'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais faite sur un volcan.
Vous auriez aimé ça en Laponie, hein, Guillaume Medachevski.
Moi, j'ai moins 40 degrés, monsieur. Franchement, on va changer de métier. On va inverser. Vous voulez le volcan pour moi, puis je le ferai pour vous.
On va écouter un extrait, parce qu'au Japon, on peut aussi cuisiner ses légumes grâce aux vapeurs des volcans.
Bien que le volcan soit en activité, les gens vivent ici. C'est parce qu'ils savent que le volcan Hunzen leur donne beaucoup d'avantages. Les dommages lors d'une éruption sont importants, mais les gens en ont tiré une grande force et ont appris à profiter des bienfaits prodigués par le volcan. Ici, la présence du volcan a donné naissance à une culture singulière, et la culture thermale en fait partie.
À Obama, les bains d'eau chaude ne sont pas la seule manifestation visible du magma qui sommeille sous la ville. Les habitants utilisent aussi la géothermie, ces vapeurs volcaniques sorties des profondeurs de la Terre, pour faire la cuisine. Une cuisine 100% naturelle.
Vous voyez, déguster ça ?
Ici, la croyance populaire dit qu'on peut augmenter sa longévité de 5 ans en mangeant ces aliments délicieux et légèrement salés par les vapeurs volcaniques.
Pique-nique volcanique.
Voilà, Arnaud Guérin, on voit effectivement déguster ces petits légumes qui ont l'air absolument savoureux. Alors ça, c'est l'aspect plutôt clin d'œil, hein, de l'histoire, parce que Hunzen, justement, au Japon, c'était une vraie catastrophe. D'ailleurs, vous montrez les images d'archives de l'année 1991. C'est sidérant quand même ce qui s'est passé là-bas avec l'éruption. Hein.
Alors c'est d'autant plus sidérant, et j'en ai encore toute l'émotion, c'est que c'est là où Maurice et Katia Kraft ont disparu, et nous sommes allés à l'endroit. Alors c'est un sujet qui est un sujet encore extrêmement chaud avec les Japonais, parce que les Japonais considèrent que Maurice et Katia Kraft sont la cause de la mort de 50 personnes, parce que il y a des gens qui les ont suivis. Ils faisaient un film pour les Nations Unies sur les risques volcaniques. Et je peux vous dire que l'endroit où ils ont disparu, premièrement, c'est là où vous êtes aujourd'hui, c'est à peu près 50 mètres au-dessus du niveau où ils étaient. Tellement le volcan a vomi une matière sous forme de nuée ardente.
On voit les images, c'est époustouflant. Hein.
C'est totalement époustouflant. Et comme à chaque fois, ce qui est absolument incroyable, c'est de rencontrer les gens qui ont vécu ça. Alors, on rencontre un des instituteurs de l'école qui a évacué l'école. Et puis à côté, on rencontre aussi un monsieur qui s'appelle Monsieur Honda, qui n'a pas évacué sa maison et qui vit là tout simplement parce qu'il est shintoïste et qu'il parle à la montagne, il croit aux forces de la montagne et que la montagne lui parlait. Et il y a des moments, on a des révélations comme ça partout à travers le monde. Les gens vous disent qu'ils ont une connexion avec ces montagnes de feu que sont les volcans.
Même en Auvergne ?
Même en Auvergne, je peux vous dire qu'on a rencontré un géologue absolument extraordinaire à Chamalières, dans la grotte du chien, qui était une attraction touristique au 19e siècle. On descendait les gens et on mettait un chien dans le fond de la grotte, là où il y a du CO2. Le chien tombait dans les pommes parce qu'il n'y avait plus d'oxygène. On le réanimait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je peux vous dire que notre géologue qui nous a emmenés là-bas nous faisait des expériences. On a fait des expériences avec des bulles de savon, c'est très spectaculaire. Vous lancez des bulles de savon là avec le truc qu'on utilise quand on est enfant, et les bulles de savon descendent jusqu'à temps qu'elles flottent sur le CO2. Et lui prenait des respirations dans le CO2 parce que ça lui faisait tourner la tête, donc c'était assez étonnant.
Ça commence donc le 18 mars sur Arte, 17h35. Une petite série donc de 20 documentaires, et puis parallèlement ce livre Les volcans et les hommes qui sort chez Glénat, Arnaud Guérin, qui est complémentaire d'ailleurs des films. Hein.
Voilà, tout à fait. L'idée, c'est de prolonger le voyage. On retrouve des histoires d'hommes qu'on a dans la série, mais au départ, toute une présentation de la relation qui existe entre les volcans et les hommes à travers la planète entière.
Et de très belles photos, évidemment, que vous avez réalisées, Arnaud Guérin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne chance à tous pour le film ILO, donc mercredi. Merci. Sur les écrans, Guillaume Medachevski. Et puis, bien sûr, pour les volcans et les hommes, c'est sur Arte à partir du 18 mars. Lorraine Lavocat, on lit reporter.net si on aime l'environnement et l'écologie. Merci beaucoup. Bon week-end à toutes et à tous.